Chers amis, bonjour et bienvenue dans votre chaîne de podcast Un accent sur le nouveau leadership. Je suis Guéraguir et aujourd'hui, nous allons entamer le deuxième épisode d'une mini-série en deux épisodes destinée à parler au cœur de nos équipes. Lors de l'épisode antérieur, il a été question des 5 langages de l'amour en milieu professionnel. Déjà, de quoi secouer un peu les établis et les préceptes conventionnels. Mais maintenant, on va s'intéresser à ce que je croyais être une méthode influencée, inspirée de la programmation neurolinguistique, dite PNL, mais pas du tout. Il s'agit d'une méthode développée par un certain Jean-Denis Laradé en 1993. Et je parle de la méthode Tsongkhas. Tsongkhas est un acronyme, une astuce mémotechnique pour se rappeler des initiales de ce qui était considéré comme des motivations d'achat d'un acheteur potentiel. Donc cette méthode a été presque exclusivement appliquée à un contexte purement commercial. Mais il s'avère qu'il y a un domaine beaucoup plus large dans lequel elle peut s'appliquer. Et c'est tout simplement l'humain. Alors si traditionnellement, la méthode Tsongkhas a servi à toucher le cœur de clients potentiels pour arriver à leur vendre quelque chose, je pense que nous sommes là dans un domaine d'application relativement restreint. Parce que sa magie est basée sur les motivations d'un individu. Donc celles-ci ont été transformées en motivations d'achat. Mais ça reste quand même une motivation de l'individu. Et c'est là que l'approche purement commerciale est comme se mettre dans un angle obtus avec des œillères dans la mise en application de quelque chose de beaucoup plus vertueux que juste une façon d'arriver à un objectif commercial. Si vous, en tant que leader, votre rôle est de vous amener, vous et une équipe, à atteindre un objectif, le mot commercial n'existe plus. Mais l'objectif y est encore. Et si le Tsongkhas est une approche, une méthode qui permet d'identifier, de représenter et de s'adresser au levier de motivation d'une personne, en fin de compte, c'est une méthode géniale pour vous aider, vous et le groupe, à atteindre l'objectif en particulier en créant de la motivation. Une question qui revient en long, en large et en travers, depuis toujours, c'est-à-dire elle est pérenne, cette question-là, mais elle brûle les lèvres de tous les leaders et managers de France, de Navarre et de toute la francophonie, et je dirais même de tout le monde économique, depuis l'avènement de la crise sanitaire. Parce qu'on en a pris pleinement les ratiches, ça a été tellement dur de traverser ça qu'à un moment donné, on se dit bon, « comment je vais faire pour motiver mes équipes avec tout ce qu'on a pris dans les dents ?» Et deux, en plus, en faisant du télétravail. Alors là, la pente, elle est raide. Eh bien, vous pouvez commencer par écouter l'épisode antérieur de cette chaîne de podcast. Si vous ne l'avez pas encore écouté, c'est que vous n'étiez pas abonné à la chaîne. Alors permettez-moi cette petite parenthèse publicitaire, non pas publicitaire, de bon sens. Abonnez-vous à cette chaîne, car vous allez trouver dans les épisodes futurs énormément de ressources pour nous aider à faire face à ce que je pense être le plus grand défi de notre histoire. Défi de posture, défi économique, défi social, défi sociétal. Alors si vous ne voulez pas rater un condensé extraordinaire de source d'inspiration, abonnez-vous. Et si vous avez des questions à la suite de ce podcast ou à la suite d'autres podcasts, n'hésitez pas à m'écrire sur hello@nouveauleadership.life. Avec tout ça maintenant, revenons à nos moutons, car nous sommes maintenant sûrs que vous ne raterez pas les épisodes suivants, comme vous auriez pu le rater l'épisode dernier. Et revenons maintenant à cette méthode Tsongkhas et ce qu'elle nous apprend sur notre potentiel de leadership et sur comment communiquer au cœur et avec le cœur de nos équipes. Si vous avez fait ne serait-ce qu'un peu de formation dans votre carrière, en compétences, même en développement personnel, il y a de très fortes chances que vous ayez traversé à un moment donné la méthode sans casse. Mais en dépit de son intérêt, de sa puissance, ce n'est pas une méthode qui est extrêmement divulguée. Et peu de gens, hélas, dans le monde de l'entreprise, la connaissent, alors qu'elle est extrêmement, extrêmement intéressante. Donc du coup, si vous n'en aviez jamais entendu parler, vous êtes au bon endroit et ça va vous permettre de comprendre un paquet de choses. Aujourd'hui, on va le faire dans l'axe de la communication du leader, mais vous pouvez aussi le mettre en application dans plein d'autres domaines, comme par exemple le domaine initial dans lequel elle avait été mise en application, la vente. Avec ceci, allons direct comprendre de quoi parle-t-on quand on nomme la méthode sans casse. Tout d'abord, on parle d'un acronyme. Un acronyme, c'est quoi? C'est un mot qui est fait avec les initiales d'autres mots. Ainsi, on a une astuce mnémotechnique. Comme ça, on se rappelle du nom sans casse. Et en se rappelant du nom sans casse, on se rappelle des initiales de chacun des mots dont je dois me rappeler. Et ça facilite le souvenir du contexte dans lequel on peut inscrire notre échange avec la personne que nous avons en face. À l'origine, pour être fidèle à l'origine de cette méthode, celle-ci était basée sur les motivations d'achat d'un individu. On a toujours cru, à tort, que la motivation d'achat d'un individu était le prix et qu'il fallait à tout prix être compétitif en prix. Pourtant, il y a bien des ordinateurs que vous pouvez acheter à 300 euros ou des ordinateurs que vous pouvez acheter à 3000 euros. Dans certains cas, vous pouvez acheter exactement le même ordinateur que vous avez payé 1000 euros d'un côté, 3000 euros de l'autre. À quoi est due cette différence du simple au triple? Pourtant, il y a bien des gens qui achètent l'ordinateur à 3000 euros et d'autres qui achètent l'ordinateur à 1000 euros. Ceci est juste l'illustration pure et parfaite que l'argent, le prix, n'est pas toujours la motivation principale. Donc, comme c'était souvent une zone de friction, le prix, alors ceux d'entre vous qui avaient travaillé avec des commerciaux, on est là dans la caricature la plus absolue. Vous faites un séminaire de vente pour présenter les produits. Et là, bien évidemment, les commerciaux font le bilan du travail qu'ils ont fait dans l'année. Et toutes les difficultés qu'ils ont trouvées, dans 90% de cas, sont dues au fait les prix. Le concurrent, il fait moins cher. On a trouvé si à tel prix, le prix. Si c'était moins cher, je vendrais plus, etc., etc. Et c'est un truc qui est particulièrement énervant. C'est ce que je pense qui a dû énerver Jean-Denis Laradé à un moment donné, parce que à force de se faire dire que le prix, il a fait comprendre à tout le monde que le prix n'est pas la première variable. En réalité, avoir un prix pas cher, c'est la certitude que même le plus naze des individus, le plus nul en vente qui soit capable de vendre. Parce qu'il n'y a pas besoin d'un argumentaire quoi que ce soit. Si tu as un prix qui est vraiment très concurrentiel, tu n'as pas besoin d'argument. Le mec, il arrive, il fait une affaire, il achète et boit cette eau. Et encore, ce n'est pas garanti que le mec aille acheter. Mais bon, ceci étant dit, nous étions dans ce domaine-là, un sempiternel problème avec les commerciaux qui ne faisaient que jurer par le prix. Ainsi, Jean-Denis Laradé, ce qui commence à nous dire, il dit non. Il y a d'autres motivations qui rentrent dans choix d'achat, comportement d'achat d'un client potentiel. Si vous vous adressez aux bons critères de motivation, vous allez maximiser vos chances de réussite. Et en plus, ce qu'il disait, et ceci est quelque chose d'extrêmement intéressant à vraiment engrammer dans notre esprit de leader, et surtout, sachez que l'argent est souvent l'une des dernières motivations des personnes qui vont venir s'adresser à vous. Si, dans un contexte d'achat, il a une place importante, dans un contexte plus élargi qui est celui dans lequel nous nous trouvons, l'argent prend une place encore moins importante. Plutôt important quand il s'agit de vente. Plus que secondaire, je souligne, plus que secondaire quand il s'agit de relations humaines. Et c'est de ça dont nous parlons aujourd'hui, car nous sommes en train de nous intéresser de comment parler au cœur de nos équipes avec le cœur. Tout comme dans l'épisode antérieur, quand nous avons parlé des 5 langages de l'amour en milieu professionnel, nous avons évoqué le fait qu'il y a une hiérarchie de besoins. Cette hiérarchie de besoins classe en haut de la pyramide le besoin principal à remplir. Et au fur et à mesure que vous descendez dans le classement, vous allez perdre en impact. Et dans le bas de la pyramide, on va dire vers de la moitié jusqu'au bas, vous vous retrouvez dans des choses qui font plaisir, mais qui potentiellement ne changeront pas la donne de façon superlative. Vous êtes dans l'obligation de taper dans le haut de la pyramide, en sachant que tout en haut, le numéro 1 de cette hiérarchie sera celui qui aura le maximum de chances de générer le résultat que vous voulez obtenir. Et ici, nous sommes en train de parler de motivation. Donc, dans la motivation, vous allez créer une hiérarchie avec les 6 éléments plus 1, car il y en a un qui s'est rajouté récemment, des 6 éléments plus 1 de la méthode sans casse, ou devrais-je dire sans case, puisqu'on a rajouté un E à la fin du son casse. Donc, une fois que nous avons dit ça, la base est exactement la même. Il existe aussi un réservoir chez toutes les personnes qui est représenté par chacun des éléments que nous avons cités. Sauf que le principal est celui qui a le réservoir le plus grand, qu'il sera le plus important de remplir, car c'est lui qui alimente l'immense majorité de la motivation. Donc, ce réservoir, il faut savoir dans la jauge de l'individu où se trouve sa jauge dans ce réservoir en particulier. Et j'expliquerai avec un exemple dans pas longtemps cette jauge, comment l'imaginer. Donc, on a un réservoir, il peut être plutôt vide, plutôt plein. Où en sommes-nous et quel est le rôle que nous pouvons jouer en tant que leader pour nous assurer que ce réservoir en question, qui a tellement d'importance pour générer de l'engagement auprès de mes équipes, soit le plus rempli possible pour pouvoir assurer les résultats que nous voulons assurer. Ainsi, sans transition, rentrons directement dans la première motivation de la méthode sans casse, celle qui part de la lettre S et qui parle de sécurité. Alors, quand on parle de sécurité, on s'adresse directement à son cerveau reptilien. Lui, c'est le cerveau le plus archaïque, le plus basique qui existe. Notre cerveau, au gré des millénaires ou des centaines de milliers d'années, s'est développé par couches successives. Le reptilien est le cerveau qui est présent chez tous les animaux. Après, nous avons eu un cerveau limbique, qui est de l'ordre de l'émotionnel, et après, nous avons eu le néocortex, qui est le cerveau cartésien, rationnel, la pensée complexe. Bien, la sécurité fait partie de cette base essentielle, car le reptilien est programmé pour assurer notre survie. Donc, dès le moment qu'il est titillé, il y a des trucs profondément épidermiques qui vont se réveiller. Et donc, ceci est un besoin fondamental de toute personne sur Terre, c'est le besoin de sécurité. Donc, c'est la base même d'une pyramide de Maslow, c'est commencer à d'abord remplir les notions de sécurité. La sécurité est rattachée à l'émotion de la peur. Celle-ci promet d'être très importante dans les années à suivre, dans des périodes de très haute incertitude. Quand les choses se passent difficilement bien autour de nous, il va y avoir une énorme remise en question sur la stabilité du système dans lequel nous sommes. Et aujourd'hui, c'est l'ensemble du système qui s'écroule. Ce n'est pas le système individuel d'une personne, c'est-à-dire, imaginez quelqu'un qui divorce, c'est son système individuel, familial, qui s'effondre. Ce n'est pas un système professionnel, par exemple une entreprise qui met la clé sous la porte, c'est l'entreprise qui ferme, ce n'est pas ce système-là dont on parle. On est en train de parler du système global, le système dans lequel on se réveille, dans lequel on vit, dans lequel on prend le bus, dans lequel on va faire les courses, dans lequel on vote, dans lequel, tout simplement, on existe. C'est ce système-là qui est en train de basculer. Donc, la notion de sécurité va être particulièrement secouée. Et donc, pour bien toucher à cette notion-là, il va y avoir des degrés de complexité relativement importants qu'il sera nécessaire pour nous, en tant que leader, d'adresser. Car il y a beaucoup de couches à la notion de sécurité. Et donc, quand on se retrouve pour la première fois depuis des décennies, où l'on se retrouve avec une remise en question de l'ensemble du système, à ce moment-là, en tant que leader, vous devez apprendre à agir pour créer un espace de sécurité par cercle concentrique. dans lequel vous allez donner le maximum de sécurité à la personne dans le cadre dans lequel elle se trouve en partant de son centre individuel. Là où elle se trouve, pas là où vous vous trouvez, pas là où se trouve l'entreprise, là où se trouve la personne. Donc vous allez avoir de plus en plus de discussions de l'ordre de la sécurité qui toucheront tout simplement au salaire. Avec une période d'inflation, voire d'hyperinflation, avec l'augmentation des prix qui nous attend à partir de septembre, qui va être extrêmement brutale, on va dépasser les deux chiffres, mais largement, à ce moment-là, on va se retrouver avec des personnes qui tout simplement auront du mal à joindre les deux bouts, ne serait-ce qu'à payer l'essence pour tous les jours aller au boulot. Donc là, il y a une notion de pure de sécurité. Il faut que je puisse acheter à manger, il faut que je puisse payer l'école, il faut que je puisse tout simplement arriver au bout de ce mois-ci. Donc, la notion de sécurité pourrait prendre le dessus sur beaucoup des autres motivations des individus. Car le son casse fonctionne de manière apaisée dans un contexte stable. C'est-à-dire que dans celui-ci, on va avoir une hiérarchie qui dépend de chacun des éléments du son casse. Dans une période de très haute incertitude, parce que c'est le reptilien qui s'exprime, nous allons être directement en liaison avec un besoin de survie, un besoin de sécurité, qui va venir s'exprimer de plein de façons différentes. Ainsi, vous n'allez pas pouvoir passer outre les discussions salariales. J'imagine que vous y êtes déjà en plein dedans. Beaucoup de dirigeants avec lesquels je parle, ils sont conscients qu'ils ne peuvent pas augmenter tout le monde, qu'ils vont devoir faire des choix sur les personnes auxquelles ils vont devoir augmenter les salaires. D'autres, ils ne pourront pas. Il en advient de la survie de l'entreprise. Donc, comment allez-vous faire pour pouvoir répondre aux besoins de sécurité de vos équipes? Donc, quand vous partez du centre même de l'individu, comment pouvez-vous influencer sa sécurité? Si aujourd'hui vous ne pouvez pas augmenter son salaire, que pouvez-vous faire pour réduire le coût de sa vie? Il y a peut-être d'autres choses de façon collatérale que vous pouvez faire. C'est une autre façon d'adresser ce sentiment de sécurité. Ensuite, quand vous sortez de l'individu dans sa vie, c'est l'individu au sein de l'entreprise. La survie de l'entreprise. Comment on peut s'assurer qu'ils aient la sensation que l'entreprise est là pour rester? Comment peut-on sécuriser cette crainte de la perte de leur boulot? Ainsi de suite, vous évoluez dans la sécurité, dans la systémie dans laquelle vous vous trouvez. Ok, notre entreprise est inscrite dans un marché. Il appartient à un corps de métier. Dans ce corps de métier, faisons-nous les bonnes choses pour nous assurer que nous sommes en sécurité? Est-ce que nous sommes bien informés? Est-ce que nous sommes bien accompagnés? Tout ceci, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes de raconter à vos équipes. Ne restez pas enfermés dans votre propre insécurité. Tout ce que vous êtes en train de faire pour assurer la survie de votre entreprise fera du bien à vos équipes de l'entendre. Parce que ce qu'elles veulent savoir en période de très haute incertitude, c'est que demain, elles vont se lever, elles vont encore avoir un salaire. Ça, c'est déjà extrêmement important. Donc, toutes les questions que vous posez pour assurer la sécurité et la survie de votre entreprise, commencez à les partager pour que les personnes elles sachent que vous ne vous tournez pas les pouces, que vous n'attendez pas tout simplement que bonheur se fasse. Vous êtes proactif dans la recherche d'un espace de survie de votre entreprise. Ceci assurera énormément vos équipes. Donc, cette parenthèse que je viens de faire, elle est très circonstancielle par rapport à ce que nous vivons. Mais il y a des personnes qui, en dehors du contexte dans lequel nous vivons, ont toujours un besoin de sécurité. Et le besoin de sécurité peut être affiché tel que je viens de l'afficher, d'une façon très directe parce que ça touche à la survie, ou d'une façon, d'une psychologie un peu plus subtile, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui manque de confiance en soi, aura besoin qu'on le sécurise, aura besoin d'avoir le reflet permanent d'un miroir qui lui dit « tu as bien fait ton boulot ». On est là dans le registre de la sécurité. Il doute tellement de lui, il est tellement sous l'emprise du doute, des complexes, des croyances limitantes, et du saboteur intérieur et des pensées envahissantes qu'à un certain moment, il n'a plus la capacité de se rassurer lui-même. Et il a besoin que la personne qu'il a en face puisse le rassurer. Alors si je fais cet exemple-là, c'est parce que cet espace-là sera mis particulièrement en difficulté dans les temps que nous allons vivre à partir de septembre. C'est-à-dire qu'une personne qui n'est peut-être pas dans cette description-là, en période de très haute incertitude, pourrait sombrer dans des doutes, des croyances limitantes, des complexes, des pensées envahissantes, le syndrome de l'imposteur, le saboteur intérieur, et donc se retrouver dans un espace où elle va avoir besoin d'aide pour sortir de cette incertitude-là, pour pouvoir voir un peu de lumière dans un tunnel où il ou elle ne voit que de l'obscurité. Donc, nous sommes là sur la première base de la sécurité de la méthode sans casse. Maintenant, comme dans l'épisode antérieur, on voit ici les vertus de comment vous pouvez accompagner et adresser cette notion de sécurité vis-à-vis d'un individu. Mais il y a bien évidemment toujours un côté obscur. Le côté obscur dans la sécurité, c'est de faire semblant d'être en sécurité, de faire croire aux personnes que tout va bien. C'est tout simplement et bonnement de leur mentir pour leur faire imaginer qu'elles sont en sécurité, pour faire taire leur peur, alors qu'en réalité, le contexte dans lequel elles se trouvent est tout aussi pourri qu'elles n'arrivent à le voir. Là, ça peut être une arme à double tranchant. À un moment donné, quand vous n'avez plus de ressources, ça peut être votre façon de dire « Écoutez, on va essayer de passer. Je n'ai plus d'autre choix que de leur faire croire que tout va bien. Et on verra ce qu'il en devient. » Par contre, dès le moment où le moindre indice apparaît qui dit le contraire de ce que vous avez avancé, si les personnes que vous aviez en face avaient besoin de sécurité, là, leur sentiment d'insécurité va exploser et pire encore, plus jamais vous n'aurez leur confiance. Elles se seront senties trahies. Ils ont fait confiance à vos messages de sécurité. Il s'avérait qu'en réalité, ce n'était que des sornettes. Et donc, eux qui avaient besoin de sécurité, là vraiment, ils vont se sentir en danger. Mais vous ferez partie du danger aussi. Ce qui risque de rendre la pente encore plus raide. Donc ça, c'est le côté obscur de l'approche sécurité. Donc, à adresser avec extrêmement beaucoup de doigté, excusez-moi la redondance, extrêmement beaucoup de doigté, dans les différentes couches, mais aussi dans la justesse et la transparence que requiert une relation de confiance pour se faire dans la mesure possible, dans la meilleure sécurité possible. Car à la fin, et on apprend ça souvent de tous les leaders qui vivent dans des situations très extrêmes, comme par exemple les corps d'armée, d'élite, les combattants, et ce genre de contexte dans lequel tout est absolument sombre alentour, c'est du combat, c'est la guerre, il en advient de notre vie ou pas, c'est notre survie qui est en jeu, et comment les personnes viennent se ranger derrière un leader. Un leadership fort, ancré, est source de sécurité. Parce que quand la tempête souffle de tous côtés, ce que l'on recherche, c'est un endroit solide auquel pouvoir s'accrocher et s'agripper pour ne pas tomber par-dessus bord. Donc la solidité de notre leadership déterminera aussi la perception de sécurité que les personnes auront. Ce qui vous oblige, mais ça c'est un autre épisode, ce qui vous oblige à vraiment travailler l'ancrage, l'alignement de votre leadership, mais aussi sa connexion et l'éveil d'un potentiel superlatif à mettre au service du rôle que vous allez remplir, car c'est vous qui allez pointer du doigt la vision et le cap qui va vous permettre de traverser la tempête. Sans ça, vous risquez d'avoir une débandade à bord. Maintenant, nous passons dans le deuxième critère de motivation, celui qui répond à la lettre O de Sankas. Et nous sommes là dans l'orgueil. L'orgueil est celui qui embellit le reflet de la personne qui se regarde dans un miroir. L'orgueil est celui qui va être touché par une situation qui permet à une personne de se voir sous un meilleur angle. Donc, il s'agit de tout ce que vous pouvez apporter pour permettre à l'ego de cette personne, au besoin de reconnaissance de cette personne, de pouvoir répondre à ses attentes. C'est-à-dire que cette personne s'est créée une place dans le monde, et cette place-là, elle est justifiée par des critères hiérarchiques. Il y a une hiérarchie dans sa tête qui dit que, en haut de la hiérarchie, je suis super bon. Au milieu, je suis moyennement bon. En bas, je suis complètement naze. L'orgueil va être celui qui va me permettre d'être le plus haut possible. Ça, c'est une des parties de l'orgueil telle que le présente l'approche sans casse. C'est celui qui va s'acheter, si on est en train de parler de voiture, c'est celui qui va s'acheter une voiture reculante, une belle sportive, boum, boum, qui fait énormément de bruit et qui coûte des centaines de milliers d'euros. Là, il peut y avoir une notion d'orgueil parce que cette voiture, ce qu'elle fait, c'est le reflet de ma réussite. par exemple. Donc, on va être là dans un critère d'orgueil, montrer que j'ai réussi à travers la possession d'un bien que très peu de personnes peuvent avoir. Mais il y a une autre notion d'orgueil qui m'intéresse beaucoup plus, parce que celle-ci, elle a un danger. Si vous vous référez à l'épisode antérieur, le danger était celui de gâter l'ego. Si vous gâtez l'ego, c'est une arme à double tranchant. Ça marche tant que l'ego est gâté. Mais vous êtes en train d'exploiter ici une zone de vulnérabilité de la personne à laquelle vous vous adressez, qui est son ego. Son ego mal maîtrisé. Cette zone de vulnérabilité, dès le moment où elle n'a pas ce qu'elle attend, peut se retourner contre vous, à pertes et fracas. Donc, ce ne sont pas des méthodes qui, pour moi, sont très conseillées ou conseillables dans ce qui concerne la communication avec les équipes et parler au cœur des équipes. Pourtant, en effet, il y a des personnes qui fonctionnent avec l'orgueil. Si c'est comme ça, c'est comme ça. À côté de ça, il y a un autre type d'orgueil. C'est l'orgueil d'appartenance. Et dans l'orgueil d'appartenance, on peut avoir différents degrés de compréhension. Il peut y avoir le degré d'appartenance à un groupe. Donc là, vous êtes dans la culture d'entreprise, quelque chose qui différencie l'autre, qui lui permet de se représenter au sein d'un groupe qui le différencie du monde qui l'entoure. Et dans ce critère d'orgueil d'appartenance, vous avez aussi un autre angle qui est très intéressant. C'est l'appartenance à une réussite. Ces deux derniers sont extrêmement puissants. Orgueil dans l'appartenance à un groupe, orgueil dans l'appartenance à un résultat. L'appartenance à un résultat permet à la personne de prendre conscience qu'elle a joué un rôle important dans l'obtention de ce résultat-là, ce qui est un des leviers principaux de création d'engagement ou de désengagement auprès des équipes. Celui qui ne sait pas quel est l'effet de son travail dans la réussite de son entreprise, à un moment donné, il a l'impression d'être transparent. Il ne sait même pas pourquoi il se réveille le matin. Et au fur et à mesure des années qui s'écoulent, son désengagement commence à s'imposer. C'est son engagement qui s'est effrité. Il n'y a plus de sens de se lever. Que je sois là ou pas, ça ne changera rien. Par contre, dans l'orgueil d'appartenance, c'est dans celui où un leader va s'assurer de pointer du doigt le fait qu'on en est arrivé là grâce, entre autres, à tes efforts. Et si toi, tu n'arrives pas à voir en quoi tes efforts ont marqué une différence, moi, je vais t'aider à le voir. Tu vois, ça, c'est tout l'enchaînement d'événements qui ont eu lieu grâce à ton bon travail, cet enchaînement a été possible et nous avons pu arriver à bon port. C'est parce qu'il y avait plein de personnes comme toi au sein de l'équipe que tous ces enchaînements-là nous ont permis d'atteindre les objectifs que nous voulions atteindre. Dans les temps qui viennent de se présenter à nous maintenant, ce potentiel est énorme. Car plus le niveau d'insécurité est important, plus le niveau d'incertitude est important, plus les réussites seront un facteur d'orgueil d'appartenance important. Quand vous serez capable de dire « Regardez à quel point la tempête était énorme, regardez les vagues qu'on s'est pris dans la gueule, regardez comment on s'est serré le coude, regardez comment nous avons navigué à contre-courant, contre-vent, contre-marée, et regardez où nous sommes aujourd'hui. Si nous sommes là, c'est grâce à vous, c'est grâce à vos efforts, c'est grâce à nous, c'est à ce que nous avons fait tous ensemble, parce que nous avions cru, parce que nous avons été une équipe, parce que nous avons su être au rendez-vous de ce qu'il était attendu de nous. » Et là, je peux vous dire que l'orgueil des personnes va faire « pouf ». Et celui-là, il est extrêmement puissant parce qu'il fait résonner le besoin d'appartenance chez des êtres humains qui, eux, sont des animaux grégaires. On a besoin d'être ensemble. L'orgueil d'appartenance est quelque chose qui nous permet de justifier notre place dans un groupe. Le N maintenant de la méthode sans case a trait à la nouveauté. Alors la nouveauté touche tous ceux qui ont envie de surfer dans la tendance. Ils veulent le dernier truc. Alors si nous parlons du monsieur qui s'était acheté une voiture tout à l'heure, ces personnes qui, passionnées de voitures, sont capables de changer de voiture parce que dans la version 2021 qu'ils avaient achetée, il y avait un certain pare-choc par exemple. Et dans la version 2022, le pare-choc, les vis, elles ne sont pas posées au même endroit et il y a un petit ajustement dans l'aérodynamie du pare-choc, c'est-à-dire un truc que personne ne va voir, mais lui, il le voit. Ça veut dire que maintenant, s'il n'y a pas ces vis-là et il n'y a pas cette petite forme ondulée au niveau du pare-choc, ben, lui, il sait que ce n'est pas le dernier produit. Et il va vendre sa voiture, qui a pourtant juste quelques mois, il va la vendre pour racheter l'autre, pour être sûr qu'il a la dernière. C'est le même syndrome des personnes qui changent de téléphone portable dès que Apple sort un nouvel iPhone ou que Samsung sort un nouveau téléphone. Bref, nous sommes là dans la notion de nouveauté. Mais au sein de l'entreprise et d'une équipe, il y a des personnes qui surkiffent la notion de nouveauté, qui voient les nouvelles machines arriver, les nouvelles stratégies, les nouvelles idées, et font briller leurs yeux parce qu'ils ont la capacité de se projeter vers un futur dont ils se sentent acteurs. La nouveauté fait partie de ça. Faire partie au moment présent, envoyer un message au monde, je suis acteur de notre futur. Les personnes qui vivent avec cette notion de nouveauté seront extrêmement engagées dans toutes les démarches d'innovation, de création, de développement, parce qu'elles vont sentir qu'elles ont une action engagée dans la création de quelque chose de nouveau. Et ceci, poussé à l'extrême, nous amène à la notion de disruption, très à la mode dans les startups, qui attire énormément d'individus dont le critère numéro un de motivation est la nouveauté. Donc, la disruption, c'est quoi? C'est changer le monde pour en créer un nouveau et générer de nouvelles opportunités. Eh bien, aujourd'hui, avec les temps qui courent, on est presque obligé d'être disrupteur, de changer les façons de faire dans notre marché, de façon à pouvoir avoir un critère de différenciation suffisant pour être sûr d'être ici demain. Ça fera partie de votre grande ressource, votre capacité à vous réinventer. Sauf que si vous êtes leader, vous êtes tout seul dans votre coin à devoir vous réinventer. Maintenant, vous savez que dans vos équipes, il y a des personnes qui sont câblées pour ça parce que leur première ligne de motivation, c'est la nouveauté. Et donc, elles sont naturellement câblées pour contribuer à un effort de réinvention. Et c'est une énorme ressource à mettre à votre service. Car rappelez-vous, en période de très haute incertitude, ce ne sont pas les plus intelligents qui durent, juste ceux qui ont le plus de ressources. Et dans les ressources, il y aura des ressources humaines, des ressources financières, des ressources temps qui risquent de manquer pour tout le monde. Et derrière, quelles sont les autres ressources que vous avez? Une ressource individuelle et groupale, c'est des ressources humaines, non pas telles qu'on les entendait, ressources humaines en tant que masse salariale, mais ressources humaines par rapport à potentiel exprimé et exprimable. Ici, avec la nouveauté, vous avez un public qui va vous aider à maximiser d'énormes capacités de réinvention pour trouver de nouvelles ressources qui feront que vous, vous serez là, alors que vos concurrents, peut-être eux, ne passeront pas le cap. Le C maintenant de la méthode sans casse touche au confort. Et le confort, il ne faut pas le comprendre avec le simple fait d'être là, pépère, tranquille. Non, le confort touche à l'espace dans lequel je vais faire mon travail. Je veux le faire, je vais le faire, mais je veux bien le faire. Ce qui est une autre chose. Je ne suis pas en train de me mettre les doigts des pieds en éventail et les jambes et les pieds sur la table. Ce que je suis en train de faire, c'est de demander d'avoir le meilleur environnement possible pour faire mon travail. Juste ça, est-ce que j'ai des outils adaptés? Est-ce que j'ai été correctement formé? Est-ce que les conditions dans lesquelles s'exerce mon travail sont propices à ma performance? C'est dans cet axe-là quand l'on parle de confort. Beaucoup comprennent le confort par un confort financier. Mais là, vous touchez à un autre point de la méthode sans casse qui est le A, qui touche l'argent. On n'est pas du tout dans ce contexte-là. On est dans un confort de pratique de son activité professionnel. Ainsi, le confort, il ne faut pas le confondre avec le cliché du bien-être. Il va mettre le baby-foot, on va mettre des salles de pause, on va mettre des salles de sieste, on va transformer l'entreprise dans un énorme dortoir, un faire-semblant d'être bien au boulot. Il y a eu beaucoup d'approches humaines et humanistes dans le monde de l'entreprise, qui étaient extrêmement vertueuses, qui ont été dérivées en ce qu'on appelle « pink washing ». Le « pink washing », c'est comme le « green washing ». Le « green washing », c'est de faire semblant de faire de l'écologie. Eh bien, le « pink washing », c'est faire semblant de faire de l'humain. Beaucoup d'entreprises sont engouffré là-dedans, à terme de mon rimbombant, on dit rimbombant, non, rimbombante, c'est de l'espagnol. Bon, de terme un peu panégyrique, un peu superlatif, hein, qui était hagiographique même. Hein. Bon, non, est-ce qu'on peut parler d'hagiographie dans ce cas-là? Oui, ça dépend. Si on raconte l'histoire de quelqu'un. Bon, bref, les termes type je suis chief happiness officer. Et la seule chose de happiness et de chief que le mec il avait, c'était le mot sur sa carte parce que ça faisait joli. Ok, donc très hagiographique, oh, bah, génial, mais derrière le mec il incarne absolument rien. Et c'est ça qui a été vilipendé par beaucoup de journalistes et d'autres personnes qui se soulevaient contre cette approche-là. Mais en fin de compte, faisons pas fausse route. C'est dans l'exploitation à mauvais escient de bonnes pratiques que l'on retrouve de mauvais résultats. Donc ici, le confort à ne pas confondre avec une sorte de pinkwashing à deux balles qui ne mène rien, c'est de faire semblant que nous sommes dans un contexte où il fait bon travailler. Ou, comme certaines entreprises extrêmement connues, et je dis quand je dis extrêmement connues, c'est dans le haut du panier, qui pendant longtemps ont fait parler de leur méthode managériale extraordinaire, qui en réalité ont compris que de créer un contexte d'accueil suffisamment confortable et propice à la réponse des différents points du son casse, crée un niveau d'esclavage volontaire où les personnes vont travailler comme des chiens. Et quand je dis travailler comme des chiens, ce n'est pas juste une figure de style. C'est qu'on prétend qu'ils travaillent comme des chiens, c'est-à-dire en année chien. C'est-à-dire que tu fais en un an ce que tu aurais dû faire autrement en 7 ans dans une entreprise normale. Et pour cela, on crée un contexte où tu as l'impression d'être dans l'entreprise de tes rêves. De façon à ce que quand tu te lèves, tu ne penses qu'à venir au boulot, on s'assure que tu y resteras du début jusqu'à la fin, on te donne à manger gratuitement, avec plein de restaurants différents, avec plein de choses. Tu veux faire du sport, tu le fais dans la boîte. Tu veux faire la fête, tu le fais dans la boîte. Tu veux manger mexicain, tu le fais dans la boîte. Tu veux manger chinois, japonais, tu le fais dans la boîte. Tu veux tout ce que tu veux faire, tu le fais dans la boîte. De façon à ce que tu buves, tu respires, tu digères, tu aies la boîte dans ton ADN. Sauf que derrière, il y a un critère de manipulation. Ce que l'on veut, c'est que tu ne comptes plus tes heures à un tel point que tu fasses des semaines à 90 heures, voire plus. Ça, c'est le risque du confort vu à travers le pinkwashing, voire la manipulation de l'humain pour continuer à presser le citron. Ça, c'est le piège. Mais beaucoup de personnes fonctionnent avec la notion de confort. Mais pas que, car maintenant nous avançons et nous pensons au A de la méthode sans casse. Ici, les questions d'argent, pur et dur. Et sachez qu'il y a très peu de personnes qui ont l'argent en première ligne. D'ailleurs, ce ne sont pas des personnes qui sont très agréables à fréquenter parce qu'elles ne fonctionnent que par l'intérêt. Elles ne parlent que d'argent toute la journée. Ils mesurent tout à travers l'argent et à un moment donné, elles deviennent un peu barbantes parce que tout ce qu'ils voient dans le monde passe à travers ce filtre-là. Leur critère hiérarchique dont je parlais tout à l'heure, il est très simple. Il y a un montant à mettre à côté. Tout le monde pèse suivant l'argent qu'il a ou pas. Et ainsi se crée une hiérarchie des gens respectables et pas respectables. À un moment, ce sont des personnes qui vous sortent par les oreilles. Le seul moyen qu'elles ne vous sortent pas par les oreilles, c'est que vous soyez câblé exactement comme elles. Pourtant, elles existent et vous pouvez les avoir dans vos équipes. Alors ces personnes-là, c'est très binaire, c'est extrêmement simple. La seule chose qui compte, c'est la thune. Point, c'est tout. Donnez-leur de l'argent, donnez-leur des biens matériels et là, elles se sentiront bien. Ne leur donnez pas ça, elles ne seront pas bien. Facteur de fidélité, zéro. Facteur d'engagement vrai, on va dire, et responsable, zéro. Il y a toujours une facture à payer au bout. Et si tu ne la payes pas, ils iront voir ailleurs. C'est un profil qui était extrêmement recherché dans l'école ultralibérale, parce que ça faisait des purs requins. La seule chose qu'ils voulaient, c'était de l'argent. Et peu importe, ils pouvaient vendre leur mère s'il fallait. Le but, c'était de faire de l'argent. Et si faire de l'argent, c'est une façon d'atteindre le but de l'entreprise, c'était souvent le chemin le plus direct parce que ces personnes-là ne s'enquiquinent pas de toutes les notions éthiques, morales, valeurs, émotions et quoi que ce soit. C'est la thune qui compte et c'est vers ça qu'on va. Donc l'école ultralibérale américaine qui voulait... aller au plus vite au résultat pour s'enrichir au plus vite. Elle adore ce genre de profil. Et pendant longtemps, ils ont été mis sur un piédestal, ce qui a mené à des écoles un peu à la Loup de Wall Street. Dans une entreprise qui met l'humain au centre, ce sont les personnes les plus désagréables que l'on peut avoir dans une équipe. Car il n'y a rien qui les motive si ce n'est en supplément dans leur fiche de salaire, voire leur prime, voire n'importe quoi qui puisse juste les faire augmenter dans la hiérarchie de leur classement dans le monde basé sur la valeur argent. Pourtant, dans une période de très haute incertitude comme celle que nous allons vivre maintenant, le besoin de sécurité va être très rapidement exprimé par un besoin d'argent chez beaucoup de personnes, parce qu'elles n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Donc, il va falloir faire la différence entre le besoin de sécurité et le besoin d'argent. Et parfois, ils sont très intimement liés. Mais parfois, ils ne le sont pas. C'est que la perception d'un risque de ne pas avoir peut créer un énorme sentiment d'insécurité. Et ça, c'est beaucoup de personnes vont tomber dans ça avant d'avoir même touché à la réalité de ne plus rien avoir. Donc, vous, en tant que leader, vous devrez vraiment apprendre à faire la part de choses et voir quelle est la personne qui est en train de vous parler depuis ses peurs et la personne qui est en train de vous parler depuis la détresse de celui qui dit « mais je ne peux pas arriver, je vais me faire virer de mon appartement, je ne vais pas pouvoir remplir l'essence pour venir au boulot, je ne sais plus comment faire ». Donc, dans un contexte de très haute incertitude où la survie est remise en question, dans le système dans lequel nous vivons, la société dans laquelle nous vivons, ceci peut être compensé par des ressources suffisantes financières. Donc, le rapport à l'argent peut prendre beaucoup de place dans cet espace-là parce que les personnes ont besoin de tranquilliser leur fort intérieur pour faire taire la sensation et le sentiment d'incertitude. Là, entre sécurité et argent, vous allez avoir le plus grand défi des prochains mois. C'est comment arriver à ce que vous pourriez tranquilliser la notion de risque et la perception de risque chez les individus tout en trouvant l'espace suffisant pour pouvoir répondre aux besoins et aux pressions salariales que certains de vos salariés vont vivre. Tout ça en restant juste vis-à-vis des uns et des autres. Ici, il faudra faire preuve d'une grande créativité. Donc, on pourrait en parler pendant des heures sur les choses qui peuvent être faites dans ce contexte-là. Mais pour l'instant, restons sur notre son casse. Pointons juste du doigt que c'est là qu'il faudra bien regarder et apprendre surtout à faire la différence entre la perception d'un risque éventuel qui touchera à la sécurité, qui sera exprimé par un besoin d'argent, et la réalité d'un risque déjà exprimé de quelqu'un qui est en précarité ou presque en précarité et qui demande de l'argent parce que c'est une condition sine qua non pour sa survie, non plus dans votre entreprise, mais tout simplement dans sa propre vie et dans son propre contexte social et sociétal. Dernier critère de la méthode sans casse, la sympathie. Et là, nous touchons aux individus qui ont besoin de liens affectifs. Ils ont besoin de se sentir proches des personnes avec lesquelles ils travaillent. Ils ont besoin de se dire qu'ils font partie d'un groupe humain qu'ils respectent et qu'ils respectent. Un groupe humain qui fait sens. La sympathie est celui qui va nous amener à connecter avec l'autre personne parce qu'on l'aime. Et là, je vais tout simplement, plutôt que de passer 5 minutes ou 10 minutes à vous développer la sympathie, je vais vous amener directement à écouter l'épisode sur les 5 langages de l'amour. Car, en priorité, les 5 langages de l'amour, ils vont venir remplir cette notion de sympathie à travers le lien affectif. Mais pas que. Les deux épisodes d'aujourd'hui sont deux angles très différents pour assurer motivation et engagement auprès de vos équipes. Mais sur beaucoup de registres, ils vont venir se superposer. Eh bien, dans le domaine de sympathie, quand vous avez un leader qui sait remplir votre réservoir d'amour professionnel, ce leader-là, forcément, obtiendra sympathie et respect. Comme partout, il y a la face obscure. Et la sympathie, c'est quoi? Le piège de la sympathie, c'est tout simple. C'est de faire semblant d'être cool. Et là, vous êtes mort. Le mec, il sourit. Vous en avez vu des centaines des comme ça. Celui qui arrive et qui vous fait un sourire, qui ressemble tout et surtout à un rictus de chien, plutôt qu'à un véritable sourire. Vous voyez juste les lèvres qui bougent. Il n'y a plus rien qui s'exprime dans le visage. Et de façon mécanique, il a appris à faire semblant de sourire. Mais vous sentez que ce sourire ne veut plus rien dire. Il est vide d'humanité. Il n'a plus d'âme. Ça, c'est le piège de la sympathie. C'est de se forcer à être cordial, de se forcer à être cool. Alors là, par contre, on pousse là le summum du ridicule. Hein. Quand vous vous forcez à être cool, le mec qui veut être branché, c'est un peu le cliché, vous voyez, du mec qui est dans sa crise de la quarantaine, qui se sent trop vieux, qui veut plaire aux jeunes et qui va commencer à s'habiller en jeunes, qui va commencer à agir comme les jeunes, il va aller en boîte, il va faire les cons pour se dire « Ouais, je suis cool, j'ai pas vieilli. » Voilà, vous voyez, ça, c'est le piège de la sympathie. C'est de tomber dans les clichés parce que vous n'incarnez pas ce que vous êtes et que vous essayez de vous déguiser pour être sympathique. Là, c'est puni d'emblée, surtout chez les personnes pour qui la sympathie est le plus important. Elles ont des critères de lecture tellement fins au niveau de la sympathie, parce que c'est le plus important pour eux, que quand vous arrivez là et vous vous pointez avec votre gueule enfarinée, déguisée en mec cool, et là, ils vous voient venir. Mais regarde l'éléphant dans le magasin de porcelaine. C'est l'estampide au milieu du désert qui, dans 3 kilomètres, déjà, on la voit arriver et qui se croit silencieuse. Là, c'est le bide assuré. Alors, attention, la sympathie parle de lien affectif, elle parle de cœur ouvert, et là, un vrai leadership, il est incarné et vrai. Et maintenant, la dernière lettre qui est le bonus. Avant son casse, ça s'écrivait S-O-N-C-A-S, sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent, sympathie. Mais maintenant, certains ont rajouté le E, son case, et qui parle de l'environnement. C'est-à-dire le contexte dans lequel on va se trouver. Alors, est-ce que c'est dû à l'émergence de toutes ces tendances altermondialistes, je les appellerais presque, cette prise de conscience aussi du respect de l'environnement, mais cette prise de conscience aussi, à travers tout ça, de l'importance de l'environnement de travail dans lequel on se trouve. Et cet environnement de travail, il sera matériel, mais il sera aussi humain. Et donc, il y a un certain nombre de choses dans lesquelles il faut que je puisse évoluer qui vont rendre cet environnement propice à l'épanouissement du vivant. En fait, c'est une règle tout simplement du développement durable, c'est que tout être vivant qui est dans un environnement propice va s'épanouir et se développer. Donc, basé sur ça, l'environnement devient un critère essentiel. Alors que on l'a sorti, mais on le retrouve dans beaucoup des autres éléments du son case. Tout à l'heure, quand je vous donnais l'exemple du confort, nous étions en train de parler beaucoup de la notion d'environnement. Et donc, ce que l'on est en train de donner, ce sont des petites nuances à certains des critères sécurité, orgueil, nouveauté, confort et argent et sympathie qui se trouvent dans les 6 points initiaux, et on les a ressortis pour les rassembler dans la notion d'environnement. Et je trouve ça relativement intéressant car c'est une belle adaptation à l'évolution des mœurs, des mentalités, de la façon de voir l'entreprise. C'est qu'on va sortir l'environnement et le voir à part entière. Mais cet environnement-là, c'est le contexte dans lequel nous allons évoluer, et ce contexte-là, il va intégrer tout ce que nous avons dû avant. Donc, sans casse avec eux ou sans casse sans eux, on va dire que c'est une évolution de la méthode, mais vous pourriez retrouver ce dernier E sans avoir forcément à y penser. Mais ça fait du bien de pouvoir l'extraire, car il met un focus particulier sur ce qui se passe, non pas chez la personne, mais autour de la personne, pour maximiser sa perception des critères de contexte, pardon, de motivation et d'engagement que vous êtes en train de créer. Tout ça est un contexte. Tout ça est un environnement. Donc, petit bonus qui nous permet ainsi de conclure l'approche de la méthode sans casse. Nous concluons ainsi la mini-série en 2 épisodes, celle qui a commencé avec les 5 langages de l'amour en milieu professionnel, et maintenant la méthode sans casse qui nous parlait des critères de motivation. L'objectif, quel était-il dans ces 2 épisodes ? C'est de mettre un maximum de chances de votre côté pour pouvoir engager vos équipes et les amener au mieux à aboutir aux résultats que vous aurez besoin d'obtenir pour vous assurer la réussite de votre entreprise ou sa simple survie. Nous avons jusqu'à septembre 2022 pour nous organiser. La pente va être raide, pas pour tout le monde, Parce que je pense que comme dans le contexte de crise sanitaire, il y a certaines entreprises qui se sont retrouvées au bon endroit, au bon moment et ont eu des taux de croissance extraordinaires, je pense que certains des choix de l'État vont amener l'émergence de certains secteurs porteurs et l'enterrement, hélas, d'autres secteurs. De quel côté de la barrière serez-vous ? Je ne sais pas et vous ne le savez pas non plus. Une certitude est que vous soyez en crise de croissance ou en crise de survie, les outils que vous venez de découvrir seront une valeur superlative qui vous permettra de canaliser les efforts et les résultats de vos équipes en assurant motivation, empouvoirement et engagement. Car le moment est venu de réinventer le leadership et ce n'est pas en restant dans le cadre que nous allons le faire.